Sur une note plus légère, courriel de Pierre, un auditeur qui m'a écrit au cours des dernières heures à jérôme.landry@cogecomedia.com. Bonjour Monsieur Landry, j'espère que vous ne passerez pas à côté de demander à Monsieur Trudeau où était sa super vedette à 5 pieds 6 hier soir. Continuez votre bon travail, messieurs. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il l'habille Caulfield quand il n'y a pas de prolongation ou il l'habille quand les prolongations vont? C'est parce que j'ai regardé la game, j'ai pas vu hier.
Ah, sinon mais j'ai pas vu. C'est donc petit ça.
Il était-tu habillé ou
c'est comme Caulfield, c'est petit.
Mais,
c'est très...
Non, mais tu me confirmes, il l'habille quand la prolongation commence, c'est ça? C'est ça qu'on ne l'a pas vu hier.
Non, il était habillé, il était sur la glace.
Il était sur la glace.
Le problème, en fait, j'ai l'impression que l'équipe en entier ne s'était pas habillé.
Ah, OK.
Mais il va falloir que François Legault arrête de parler de Cole Caulfield.
Ouais, parce qu'il y a
encore... C'est là encore référence quatre fois à lui dans le point de presse ce matin. On peut-tu donner un petit break au jeune homme de 20 ans qui commence dans la Ligue nationale? Ouais. Donnez-y un break. Il ne comptera pas tous les matchs. Il a compté 2 buts gagnants en prolongation dans la dernière semaine. C'est plus que bien d'autres joueurs.
Et oui.
Et hier, on s'est fait torcher par Ottawa. C'est la simple conclusion. Il n'y a rien d'autre de
c'est
plus.
C'est tout un mismatch, pareil, Ottawa contre Canadien. Je sais pas si c'est la vitesse ou le patin des sénateurs.
Ça marche pas.
Ça marche pas. Le Canadien
pas
contre les Sens.
Ben heureusement, les Sens ne seront pas en série.
OK. Non. Heureusement pour vous autres. Exactement ça. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Myriam Segal qui est avec nous. Salut Myriam.
Allô.
Myriam, je veux pas te vieillir, OK, mais je t'écoutais avant de faire de la radio et je sais que t'as couvert Mme Boucher, t'as couvert Jean-Paul Hallier. Je pense pas que t'as couvert Jean Pelletier, par contre, à Québec.
Oui.
OK.
Oui, parfait. Je me rappelle notamment qu'avec André Arthur l'avait sacré dehors de son studio.
Ouais, j'avais...
Il refusait de répondre à ses questions. Le mercredi, le maire était toujours invité en onde. Et Pelletier refusait de répondre à ses questions, puis Arthur lui avait dit « Sacrez votre camp d'abord.
» Je me souvenais pas que t'étais là.
Ça s'était fini un peu abruptement, puis après ça, j'étais chargé d'aller à l'hôtel de ville poser des questions à Jean Pelletier, auquel il voulait pas plus répondre quand c'était moi que quand c'était Arthur, bien évidemment.
T'étais obligé d'aller faire ce travail-là, mais écoute, on a toujours eu des personnages quand même haut en couleur à Québec comme maire. Hein? Comment tu situes Régis Labeaume dans tout ça, Myriam?
Écoute, il faut comprendre que Québec, c'est pas une démocratie. Québec, c'est une monarchie élective. Québec, depuis 1938, quand Québec choisit un maire, le maire reste jusqu'à son bon plaisir. Mmh. Depuis Lucien Borne, en fait.
Ouais.
Et le maire reste en place tant qu'il décide que c'est pas le temps de partir. Et les gens de Québec sont généralement fidèles au maire sortant. Le maire sortant n'est jamais battu à Québec. En tout cas, il n'a jamais été battu depuis 1938. Et en 1938, il y en a un qui a été battu parce que c'était deux maires sortants qui s'affrontaient.
Bon.
OK? Alors, Québec est une monarchie élective et si Labeaume avait décidé de se représenter, je pense qu'il était réélu. À cause de cette espèce de tradition où, garde, on a un cheval, il court bien, il court pour nous, il est fatigué, mais il court encore bien, on continue. Et je pense qu'il aurait été réélu. Maintenant, il faut que Labeaume soit prudent, parce que je l'entendais hier dire « Ah, peut-être, écoutez, ça s'en vient. » S'il, par hasard, il tentait de choisir son dauphin, il pourrait effectivement ramasser une renclée. Il pourrait faire battre son dauphin plus que l'aider.
Ouais.
Parce que Québec a aussi la tradition de choisir un successeur qui est souvent à l'opposé du prédécesseur. Exemple, Jean Pelletier, qui était l'homme de l'establishment, de la droite, des promoteurs. Quand Pelletier est parti, les gens de Québec ont choisi l'allié, qui était aux antipodes.
Ouais.
Okay? Quand l'allié est parti, ils ont choisi la mairesse Boucher, qui représentait autant les banlieues que l'allié représentait le centre-ville.
Exact.
Alors, et donc, les gens de Québec, ils aiment quelqu'un pour sa personnalité et ils l'adoptent jusqu'à son bon plaisir, mais je ne pense pas qu'un maire pourrait choisir son successeur.
Et même, juste au niveau éthique, si Régis Labeaume endosse un dauphin ou une dauphine, il lui reste quand même 6 mois au pouvoir. C'est très délicat là, de pas avoir l'air de vouloir préparer la suite pour son successeur ou sa successeur, de pas donner des avantages ou quoi que ce soit. Ça peut être bien délicat au niveau éthique. Et encore là, ça peut y jouer des mauvais tours. Là.
La seule chose que les gens de Québec veulent pas, c'est une marionnette avec une main qui l'agite et qu'on voit pas. Alors, ça, c'est un jeu qui pourrait être dangereux. Quand je l'écoutais hier, je me disais, oh, il risque de vouloir pomper la candidature d'une de ses ouailles. Et s'il fait ça, il va lui nuire plus qu'il va l'aider. D'autre part, il y a quand même un surplus de 122 millions de dollars qui m'inquiète énormément. Parce qu'il a aussi dit hier qu'il ne serait pas un lame duck, c'est-à-dire un canard tranquille là, qui va sur l'eau tranquillement. Là. Autrement dit, il va essayer de faire des choses. Et je pense qu'en toute honnêteté, il devrait laisser ses successeurs et le public qui va choisir son successeur décider ce qu'on va faire du 120 millions. Je pense qu'il serait assez malvenu et que ça ternirait son héritage s'il était tenté de faire quelques largesses, de promouvoir des projets sur lesquels il n'y a pas de mandat. La grande faille de la Baume, ce que les gens de Montréal présentent comme sa grande réussite, c'est-à-dire le tramway, là, est en réalité aussi son plus grand échec. Parce que oui, il a réussi à livrer le tramway, là, les appels d'offres sont partis, puis même si Gosselin dit va mettre la hache là-dedans, je vois pas comment il pourrait le faire. Là. Mais il a aussi passé ce tramway-là en travers de la gorge des gens, sans les avoir vraiment consultés et sans avoir abattu ses cartes aux dernières élections. Ouais. C'est une réussite politique et un échec démocratique, le tramway.
As-tu un moment, là, tu parles du tramway, je pense que ça pourrait être ça la réponse, Myriam, mais puis je sais que tu as bien connu Jean Tremblay aussi à Saguenay, là, puis Jean Tremblay, à un moment donné, sa popularité s'est mise à baisser, puis on a vu ça avec Régis Labeaume aussi. Sais-tu que les gens se tannent à un moment donné de ces personnages-là, ou s'il y a des décisions, à un moment donné, des moments où ces gens-là se déconnectent de la population, Myriam?
Il y a des moments où il se déconnecte. Et dans le cas de Labeaume, au cours des 4 dernières années, il s'est déconnecté. En même temps, il a eu des rendez-vous avec ce que moi j'appelle la vraie vie, là, c'est-à-dire la mort longue de son père, son propre cancer, etc., le drame de la mosquée, le drame de l'Halloween. Il y a eu des rendez-vous avec la vraie vie qui l'ont ébranlé, je pense, sincèrement. Mais dans toutes ces circonstances-là, le Labeaume humain qui a le pif, qui sent comment les gens se sentent. Souvent, durant la pandémie, j'ai trouvé qu'il avait les bons mots pour décrire comment on se sentait.
C'est vrai.
Alors, ce Labeaume-là, il lui a permis de surnager. Mais quand tu regardes les dossiers des 4 dernières années, c'est une catastrophe. Le tramway, là, il passe en travers de la gorge du monde, mais on lui en veut un peu. Puis moi, personnellement, je sais pas comment je vais endurer de voir qu'on va saccager ce qui reste d'arbres matures et de convivialité sur le boulevard René Lévesque.
Ben d'accord.
Tu sais, il y a dans ce projet-là quelque chose de brutal qu'il nous a passé en travers de la gorge et qu'on risque de moins lui pardonner. Le poste de police, il a jeté Jonathan Julien sous l'autobus.
Oui.
Dans le cas du poste de police, mais c'est un projet qui n'a jamais réussi à faire aboutir. Et je dirais que le grand échec de la bombe, qui n'est pas visible, mais dont le tramway fait partie, c'est toute sa vision d'urbanisme. Moi, ce que je vois, c'est à cette fois des tours qui poussent un peu n'importe comment. Dans le secteur Le Bourgneuf, des tours qui poussent un peu n'importe comment. Des quartiers qui sont isolés par des autoroutes qu'on ne peut pas traverser. Des quartiers qui deviennent difficiles à desservir par un transport en commun, par des services un peu conviviaux, là. Je trouve le patrimoine, le dégât de Saint-Cœur-de-Marie, de l'église Saint-Cœur-de-Marie, de l'église Saint-Vincent-de-Paul, bientôt de Saint-Sacrement. Tu sais, le patrimoine sous la bombe, ça a été très, très mal géré. Je pense que son principal défaut, son talon d'Achille, c'était la vision. Il n'y a pas de vision d'urbanisme de cette ville-là.
Je suis curieux de t'entendre sur ce qui va rester du style Labeaume pour son successeur ou sa successeur, parce que le style a inspiré, ou en tout cas a tenté, plusieurs maires ont tenté de s'inspirer du style Labeaume partout au Québec, avec plus ou moins de succès. Puis bon, on a vu des Denis Coderre, des Yves Lévesque, d'autres maires qui étaient forts en gueule. Tu disais que souvent les gens vont aller chercher un remplaçant ou une remplaçante qui va être différent. Mais là-dessus, sur le style, l'absence de langue de bois la plupart du temps, les coups de gueule, etc., est-ce que tu penses que ça va demeurer à Québec?
Sur l'absence de langue de bois, c'est certain. Et ça a été un peu la ligne de tous les maires à Québec. Des fortes personnalités qui parlent en langage de monde. Je pense que l'aspect de la baume qui transcende le plus, là, c'est effectivement cette capacité qu'il a d'exprimer ce qu'on ressent.
Ouais.
Dans des mots simples, clairs, parfois un peu brutaux. Ça, je pense que son successeur va devoir s'en inspirer. Mais tout dépend de l'attitude, hein? Parce que si t'as un grand six pieds qui lève le menton, c'est pas pareil que si t'as un 5 pieds 5 qui baisse le front, comprends-tu?
C'est non, vrai qu'appeler les employés municipaux des fourreurs de système, c'est un grand 6 pieds 5, ça a l'air encore plus arrogant peut-être, là, c'est ça.
Oui, puis ouais. Dans le cas du petit boule qui était la bombe, ça passait parce que on avait l'impression qu'il nous défendait quelque oui. part. Il a quand même eu certain courage.
Oui.
Amener la question des caisses de retraite des employés municipaux sur la place publique, ça prenait quand même un certain courage. Oui. Et c'est vrai que c'était un problème dramatique auquel le simple citoyen avait peu dans lequel le simple citoyen avait peu d'intérêt. Alors il les a caricaturés. C'est comme ses excuses à Isabelle Porteur là. C'est le gars qui finit par divorcer puis qui au moment où il quitte la maison dit dans le fond j'aurais pas dû te battre pendant 10 ans.
Ouais, c'est ça. C'est tardif un peu. Hey Myriam.
Disons que ça c'est pas fort fort.
Ouais.
Mais je pense que la grande force de Régis Labeaume, la grande force, ça a été qu'il a insufflé de l'optimisme et le sentiment qu'on pouvait réussir des choses à Québec, alors que Québec, des années 80-90, a très souvent été trahi par ses élites. Les gens de Montréal disent par sa radio, mais la réalité, là, c'est que la radio reflétait le sentiment de trahison des élites. Québec 84,
le départ
des Nordiques, la migration des ministères gouvernementaux vers Montréal. On était, dans les années 80-90, systématiquement trahis par nos propres élites. Et c'est ça que la radio reflétait.
Oui, c'est vrai.
Et ça, la Baume a réussi à le battre en faisant un succès avec 2008, en étant enthousiaste, en nous amenant à un amphithéâtre qu'on présente maintenant comme un éléphant blanc, mais on était très contents qu'il le fasse. Cette espèce d'optimisme qu'il a insufflé, j'espère que ça va durer.
T'as raison. 100% d'accord avec toi dessus, Myriam. Juste avant de te laisser, Myriam, tu voulais, j'ai ça dans mes notes aussi, tu voulais nous parler de ta théorie du 10% de tata. C'est-tu au Québec, ça? C'est-tu au Canada, dans le monde? Ouais. C'est quoi, ça, cette théorie-là?
Oh, c'est partout. Tu peux mettre ça dans n'importe quelle sphère de ta vie. Dans tout groupe auquel tu participes, il y a un 10% de tata. Si vous êtes 10, il y en a un qui traîne de la patte, qui fait pas ce qu'il faut, qui retarde le groupe, qui est pas fin. T'as toujours 10% de tata. Ce qui m'épate, c'est que le 10% de tata attire toujours 90% de l'attention.
Oui, c'est vrai.
Puis ça, c'est la nature même de l'être humain. Moi, quand je faisais quelque chose à un moment donné sur mes réseaux sociaux, là, à un moment donné, j'en avais un qui m'abreuvait d'injures.
Ouais.
Puis là, du coup, il y en avait 10 qui me félicitaient. Celui qui m'abreuvait d'injures, là, je lui répondais. Puis là, les autres, ils répondaient. Puis finalement, ils finissaient par occuper tout l'espace. Alors, dans tous les groupes, il y a 10% de tata. Il faut pas grossir leur nombre. La manifestation qu'on a eue l'autre jour contre les mesures sanitaires à Montréal, on a affaire à un 10% de tata. Et même dans ce groupe-là, il n'était pas 90% de tata. Il y avait 10% de tata dans ce groupe-là. Sauf que c'est ceux qui attirent l'attention. Celui qui va attirer l'attention, c'est toujours le tata. moi, j'ai habité longtemps le long d'une grande route.
Oui.
Tous les printemps, je ramassais l'équivalent d'une caisse de 24 dans le fossé.
Oui. J'ai déjà fait ça, moi aussi, Myriam. On s'était parlé quand j'étais à TQS, d'ailleurs. J'avais fait ça aussi.
Alors, bon, il n'y avait pas 90% des gens du village qui tiraient leur bière dans le fossé. Il y en avait probablement un qui passait tout l'hiver puis qui tout l'hiver tirait sa bière à cet endroit-là. Mais celui-là, il occupait tout mon temps au printemps. Alors, il faut se méfier, il faut toujours se demander, est-ce qu'ils sont si nombreux que ça? Est-ce que c'est réellement une lame de fond ou on a juste affaire aux 10% de tata?
C'est pas une lame de fond, Myriam, mais puis on a souvent eu la discussion, Jérôme et moi, même des fois hors d'onde, à savoir est-ce qu'on parle de tel ou tel phénomène ou de telle ou telle personne. Moi, le problème, c'est pas les 10% de tata qui, je pense, souvent vont être de toute façon irrécupérables, on les pas changé d'idée, mais c'est que ces gens-là, souvent, ont la capacité à attirer l'attention des gens qui, pour une raison ou une autre, vont soudainement être un peu plus sympathiques à ça ou ouverts ou même ébranlés par un discours. Et je me dis, c'est à ces gens-là que je parle. Moi, quand je dénonce ceux qui respectent pas les mesures ou qui ont un discours complètement stupide, je m'adresse à ceux qui sont susceptibles de pencher du mauvais côté, là.
Il faut les dénoncer. Là-dessus, je te suis. Je dis pas qu'il faut laisser aller les 10% de tata. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas non plus, dans notre imaginaire collectif, se mettre à penser que Il y a une lame de fond de gens qui veulent plus respecter les règles sanitaires. La réalité, là, c'est que ils sont très, très minoritaires et ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et l'autre chose que je te dirais dont il faut se méfier, c'est ce que j'appelle la bien-pensance. C'est-à-dire que moi, du haut de l'endroit où je suis, je sais ce qui est bon, mais le peuple, lui, ne sait pas ce qu'il est bon, donc je dois influencer le peuple. Cette espèce de mépris, d'infantilisation du public qui nous pousse à penser que le public est vulnérable au tata, ça, moi, je pense qu'il faut beaucoup s'en méfier quand on est dans la sphère publique.
Mais le problème, Myriam... Mais
moi,
le problème, alors, Myriam,
n'importe quel ouvrier qui m'écoute, il y a autant de jugement que moi, si pas plus.
T'as raison, Myriam, t'as 100% raison encore une fois, mais le problème avec la COVID, là, c'est qu'avec l'expérience qu'on a vécue dans les 15 derniers mois, on a l'impression que ça en prend pas beaucoup des tatas pour nous mettre dans la marde. T'sais, on a vu ça ici à Québec, là, le 400-500 cas qu'on a eu par jour ici, là, ça c'est quelques tatas qui nous ont mis dans la marde. C'est ça le problème, Myriam, depuis le début de la pandémie.
La société est toujours prise en otage par ces 10 % de tatas.
Je pense que c'est pire avec la COVID.
Il faut juste de temps en temps se rappeler qu'on est 90 % à ramer ensemble, puis que le 10 % là, il arrivera pas à faire dérailler le bateau. Il va peut-être falloir y donner un coup de rame de temps en temps, là. Mais tu sais, il faut se rappeler que 90 % des gens sont censés regarder la réponse au vaccin. Même au vaccin d'AstraZeneca, malgré toutes les réticences qu'on a entendues. Regardez la réponse au vaccin, elle est phénoménale.
Merci beaucoup, Myriam.
Ça me parle beaucoup. Pensons aux 90 % qui sont pas tata, s'il vous plaît.
Merci, Myriam. Bonne fête de journée.
Salut.
Salut.
Bye.
Myriam Segal, elle a raison, 10 % de tata. Par contre, à la manif de la semaine passée, je pense que c'était pas 100 % de tata, mais moi, je pense que pour aller manifester un samedi après-midi autour d'un centre de vaccination, pardon, à base, faut que tu sois un peu tata. Je suis désolé, là, c'est mon opinion.
Il y a 10 % de tata, mais il y a un bon gros pourcentage de gens que je qualifierais d'au moins, au mieux, naïfs.
Ouais, naïfs.
Je veux pas avoir compris qu'ils seraient associés à 10 % de tata qui étaient là parce qu'ils sont des tatas.
Faut en vouloir à ceux qui instrumentent qui se servent de ça pour gonfler leur propre popularité en tant qu'organisateurs d'une manif. Puis là, on fait des entrevues à TVA, puis on gonfle une page Facebook. C'est à eux autres que j'en veux là-dessus, surtout. Voilà. Donc, OK, il est déjà 10h48. Vous écoutez Trudeau Landry.